Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous pensez que notre alimentation peut changer le monde, vous êtes au bon endroit. Je suis Fanny Giansetto, cofondatrice et présidente d'Ecotable. Ecotable s'est donné pour mission d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique en permettant aux restaurateurs de mesurer leur impact environnemental, de se former aux enjeux écologiques et de valoriser leur travail auprès du grand public. Dans ce podcast, j'explore les enjeux sociétaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je donne la parole à des experts, mais aussi à celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, qu'ils soient restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou militants. La transition écologique ne se fera qu'avec le plus grand nombre. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le noter et nous laisser un commentaire, suivre Ecotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans les restaurants Ecotable. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre militant de l'assiette est Élie Crépeau, directeur développement durable du groupe Arkos. Les férus d'escalade savent de quoi je parle. Arkos développe des salles d'escalade partout en France dans lesquelles on trouve à chaque fois des restaurants. Ils sont particulièrement exemplaires dans leur démarche éco-responsable, raison pour laquelle nous avons souhaité lui proposer le rôle de parrain, à Élie donc, pour notre nouvelle plateforme de mesure d'impact environnemental, impact.écotable. Alors comment le groupe Arkos en est arrivé là ? Comment Élie mène le combat de l'éco-responsabilité dans ce groupe et au quotidien ? Ce sont ces questions, mais aussi beaucoup d'autres que je souhaite aborder avec lui aujourd'hui. Bonjour Élie.
Bonjour.
Est-ce que tu peux déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ?
Donc Élie, je vais avoir 40 ans cette année, ça c'est important. Je suis papa depuis 3 semaines, très important aussi. Je suis né à Paris, je travaille à Paris aujourd'hui. Entre les deux, j'ai un peu bougé.
C'est beau, tu es parisien et papa de toujours. C'est quoi ton parcours ? Comment t'es arrivé à l'éco-responsabilité au groupe Arkos ? Tu es en charge de la politique RSE, c'est ça ?
Oui, c'est un poste qui a été créé en 2019 et que j'ai pris. C'est une trajectoire à plusieurs bandes. J'ai commencé par une formation d'économiste à la Sorbonne. Je faisais de la politique économique et puis j'étais régulièrement chagriné par des choses qui me semblaient manquer dans les modèles qu'on me faisait découvrir. J'ai eu une révélation quand la question de l'environnement a été introduite dans les modèles à partir de mon master recherche.
Quand tu dis ça me chagrinait, c'était ces questions environnementales qui n'étaient pas intégrées.
Précisément. Enfin, j'arrivais pas forcément à mettre le doigt dessus, étant pas chercheur, etc. Mais c'est-à-dire que il y avait des choses dans les modèles. Il faut savoir que je vais pas développer le sujet maintenant, mais tous les modèles qui sous-tendent l'économie, il y a beaucoup d'idéologie derrière. Voilà.
Bah forcément, comme toute science sociale.
Sociale, absolument. Voilà. Et l'économie essaie de revêtir les atours des sciences dures en mettant beaucoup de mathématiques, en mettant beaucoup de précision, en mettant beaucoup d'équations. Mais derrière, il faut se rappeler que c'est toujours beaucoup d'hypothèses et beaucoup d'idéologies.
C'est intéressant que tu dises ça parce que il y a un débat sur le sujet. Il se trouve qu'en ce moment, il y a un débat à l'université sur ce sujet. Tu as sûrement entendu parler de l'islamo-gauchisme à l'université par notre ministère de l'Éducation supérieure. Moi, ça me parle parce que je suis aussi maître de conférence à l'université. Et on oublie ça, qu'en fait, les sciences sociales sont rattachées derrière à des postulats de départ. Et que si le postulat de départ, c'est le libéralisme, tu ne crées pas ton étude économique de la même façon.
Complètement. Et on nous enseigne au début des courants qui sont relativement opposés. Et puis finalement, quand on commence à prendre de la vitesse, à être dans les études supérieures, on finit avec un modèle qui est dominant. Et puis, il faut parfois un peu de recul, surtout quand on est étudiant et qu'on a des objectifs très pragmatiques de notes, de partiels, de choses comme ça. De se dire, attends, est-ce que ce que j'apprends là, c'est quelque chose qui a du sens pour moi ? Est-ce que ça rejoint... ma vision du monde. Alors quand on a 22, 23 ans, notre vision du monde elle est encore assez immature, à part pour certaines personnes. Moi c'était encore probablement en construction, mais j'ai toujours été habité par un sentiment écologiste depuis tout petit.
D'où ça vient ?
Alors d'où ça vient, j'en sais rien. Ma mère me dit qu'elle m'emmenait toucher les arbres quand j'avais 2 ans tous les jours.
Tu faisais des câlins aux arbres ?
Je faisais des câlins aux arbres. J'étais un garçon avec beaucoup trop d'énergie et les rares moments où j'étais calme, c'était quand j'étais dans la nature. et que je faisais du sport et que j'étais à l'extérieur, je pouvais passer, à contrario de mon agitation, beaucoup de temps à regarder les étoiles ou à être au calme dans la forêt. Et puis entre 8 et 12 ans, j'ai une espèce de passion dévorante pour les vidéos de la BBC animalière.
resté vivre à Paris.
Et je suis quand même resté vivre à Paris. J'ai fait pendant une période de ma vie beaucoup de voyages qui ont été un petit peu les dérivatifs pour aller chercher la nature là où je ne la trouvais pas à Paris. Mais je suis resté à Paris. Je suis aussi quelqu'un qui suis assez proche de ma famille, de mes amis, etc. Donc j'ai bougé, mais je suis revenu à Paris. Ouais.
Ok, et donc t'as pas eu en tout cas de déclic environnemental. C'est quelque chose pour toi qui a été ancré depuis le départ.
Je crois que c'était viscéral avant d'être intellectuel et qu'ensuite les idées sont venues par-dessus les émotions.
Ok, donc pour revenir à...
Donc je suis à l'université. Ouais. et j'ai ce déclic en faisant de l'économie de l'environnement sur lequel je vais faire un master recherche derrière, où je me dis ça y est, là on commence à dire quelque chose qui m'intéresse. On commence à dire que, contrairement à ce qui était sous-entendu dans les hypothèses de ce que j'étudiais avant, il y a des ressources qui sont limitées, et peut-être que la croissance à tout prix, c'est pas forcément un objectif qui est réaliste. À la fin de ce master recherche, moi j'avais pas très envie de faire de la recherche ni de l'enseignement, donc je me suis orienté vers un master pro développement durable. C'était la première année que ça existait, donc c'était vraiment à la fois essuyer les plâtres et en même temps découvrir des choses qui étaient passionnantes, avec un agrégat de matières de géographie, de droit, d'économie, de management environnemental. Voilà, ensuite je suis passé par un petit stage en association 4D, dossier et débat pour le développement durable. J'ai eu une expérience d'un an en conseil en stratégie de développement durable. J'ai eu une expérience dans une PME de 6 mois, et après ça a été le gros poste pendant 7 ans. J'ai été responsable du développement durable chez Generali France dans l'assurance.
Ah ouais.
Ce qui est assez étonnant, puisque je pense qu'on m'aurait posé la question avant ça. Il y avait deux choses dont j'étais sûr, c'était de ne jamais travailler dans la banque ni dans l'assurance.
Ouais. Et alors comment tu te retrouves à travailler dans l'assurance ?
Par une question d'opportunité. J'ai su qu'il y avait un poste qui allait être disponible. Je suis quand même quelqu'un de curieux, donc j'ai creusé de ce que pouvait être la question du développement durable dans l'assurance, et j'ai découvert quelque chose de très intéressant et très prometteur. Donc j'ai mis de côté mes a priori, j'y suis allé, ça a été très intéressant par plein d'aspects.
Et prometteur,
au bout de deux, je suis quand même resté 7 ans, hein, donc... disons qu'il a fallu, il a fini par falloir que je parte, parce que au bout d'un moment, je reste animé. J'ai toujours un peu eu le sentiment d'être un transfuge, d'être là d'abord pour la question du développement durable et ensuite dans l'entreprise. Il y en a qui sont d'abord dans l'entreprise et puis ensuite qui se demandent ce qu'ils vont y faire. Même si on peut développer un attachement à une marque, à une société pour plein de raisons. Et quand on est dans mon milieu, on lit beaucoup de choses en rapport avec l'environnement, avec l'avenir. On lit beaucoup de choses déprimantes. Et quand on a l'impression que ce qu'on fait au quotidien va pas assez vite, ou qu'on n'arrive pas à changer assez vite les choses par rapport à ce qui devrait être fait, on commence à avoir une position de grand écart de plus en plus inconfortable. Et puis à la fin, on n'est pas bien dans ses baskets.
Mais ça m'intéresse du coup, quel était ton travail concrètement dans une entreprise d'assurance en termes
Alors,
de développement durable ?
Tout simplement questionner les métiers de l'assurance au prisme des enjeux du développement durable. Donc, et c'est, en soi, c'est assez intéressant, c'est que la direction était rattachée la cellule était rattachée à la direction de la communication, ce qui est à la fois un message assez clair, voilà, et en même temps, il faut bien que le sujet rentre par quelqu'un dans une entreprise. Et il se trouve que la directrice de la communication à l'époque est la personne qui a poussé le sujet. Donc ce serait assez ingrat de reprocher qu'à la fin, on lui a dit « Ah bah tu veux en faire, bah tu le prends ». Elle a dit « D'accord, je prends ». Forcément, après, ça imprime un petit peu de la dimension que ça peut prendre, et on est un petit peu éloigné du cœur du business, même si on essaie d'y revenir récemment. Alors, ça donnait des choses intéressantes, hein. Je veux pas, je donne un exemple peut-être,
oui.
mais Generali France, c'est une entreprise qui est assez présente sur le marché des entreprises. Découvrir que les entreprises qui étaient engagées dans le développement durable, c'était des entreprises qui présentaient de meilleurs profils de risque. Elles se développent mieux, elles ont moins de risques sociaux, elles ont moins de risques environnementaux, elles sont plus promptes à innover. Et donc on s'est rendu compte que si on était capable d'auditer les entreprises sur leurs performances de développement durable, on allait pouvoir ensuite les sélectionner on allait pouvoir constituer un portefeuille d'entreprises qui présentait un meilleur profil de risque. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait un audit
en termes assurantiels.
Absolument.
Derrière.
Mais ça veut dire aussi à contrario que si on peut les aider à progresser en matière de développement durable, si on peut les accompagner sur la maîtrise de leurs impacts sociaux et environnementaux, on peut les faire progresser sur leur maîtrise du risque.
Ok. Mais c'est ce que fait une boîte comme Generali. Il y a un accompagnement derrière.
Il y a un accompagnement derrière. D'accord. C'est ce que a créé une boîte comme Generali, qui a été la seule à faire ça. Ça a donné des résultats exceptionnels sur le portefeuille. On n'avait jamais vu ça sur les ratios. De risque, on n'avait jamais vu ça, donc ça a très très bien marché. Et maintenant la question c'est pourquoi est-ce qu'on ne développe pas plus. Et donc entre cette intention de lancer des choses qui sont portées par des gens, une boîte, surtout une grosse, c'est comme une société, il y a tout dedans, donc on a des gens qui sont moteurs, qui sont ouverts, qui sont curieux, qui apportent de nouvelles choses, et puis après on se frotte à l'inertie du groupe. Et c'est l'inertie du groupe qui moi a fini par me fatiguer après que l'énergie de quelques-uns m'ait beaucoup emballé.
Je comprends. Et donc, c'est là que tu es parti.
Voilà.
Après avoir, c'est toi qui accompagnais directement ces entreprises?
Non. Alors, mon job, c'était d'aller... c'est ce que je fais aussi largement aujourd'hui chez Arkos, hein, c'est d'essayer d'aider les autres à faire. C'est des leviers de développement qui sont beaucoup plus puissants que d'essayer de tout faire tout seul.
Oui, bien sûr.
Voilà, il y a des choses que je faisais directement, et puis il y a des choses pour lesquelles je travaillais avec d'autres.
Et c'est toi qui sélectionnais les potentielles entreprises qui allaient être accompagnées?
Non, mais je pouvais travailler sur le système d'audit qui était derrière, par
D'accord.
exemple. Où je pouvais travailler pour faire une recommandation qui fait qu'on embauche une personne qui va développer la branche d'investissement socialement responsable de l'entreprise alors qu'elle n'existait pas avant.
D'accord.
Ce genre de choses. Donc okay. Très en amont, souvent.
Ouais, et puis quand même un impact non négligeable.
Oui, mais à la fin, donc on sait qu'on peut avoir tant de centaines de millions d'euros en ISR avec une méthodologie assez robuste. Moi, ce que je vois, c'est les autres milliards qui sont toujours pas du tout en ISR et qui le seront jamais.
Ouais.
Voilà.
Ouais, bon, je comprends. et donc, comment se passe ton départ? Qu'est-ce que tu fais ensuite?
Alors c'est le moment de la, il y en a qui ont une épiphanie qui rencontrent leur voie écologique, l'environnement, etc. Moi c'est le moment où j'ai un coup de déprime. Je me dis en fait est-ce que ce que je fais sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça a été une vraie question hein, et j'ai dû me recentrer sur moi. Donc en fait je me suis formé à la permaculture. J'ai travaillé sur des chantiers avec mes mains. Parce que j'avais envie de le faire. Hein. Je crois que je me disais, je vais plus jamais travailler dans le privé. Je vais plus jamais. Je crois que, en fait, il y avait, je pense presque une dimension un peu survivaliste
ouais.
dans les idées qui me traversait l'esprit à l'époque.
Mais je pense qu'on ressent un peu tous quand on est engagé. C'est-à-dire, il y a un moment, on se dit en fait, peut-être que la seule chose à faire, c'est de faire son potager. Enfin, en tout cas, de
Exactement.
Faire de l'agriculture pour sauver les hommes. Quoi.
Exactement. Et ça a été. Un des moments où j'ai commencé à m'intéresser encore plus à l'alimentation, je pense que ce sera ou à l'agriculture, je pense que ce sera un sujet qu'on abordera un peu après. Et j'ai eu l'envie de monter un lieu en lien avec la santé. Peut-être qu'il y avait une question de réparation qui m'habitait à ce moment-là, mais un lieu en lien avec la santé qui devait être que je voulais construire comme un lieu de vie. Avec plusieurs choses dedans, je voyais pas la santé avec une approche holistique sans sport, et je faisais beaucoup d'escalade à ce moment-là.
T'as toujours été très sportif?
Oui.
Ok.
Ouais, ça a été un moyen de me canaliser. J'ai toujours fait beaucoup de sport, et à ce moment-là, c'était l'escalade. Donc je grimpais beaucoup et puis j'ai contacté les patrons d'Arkos pour leur parler de mon projet. Eux ils ont entendu lieu, peut-être il a un lieu, c'est super. Moi j'ai entendu peut-être ils pourront mettre de l'escalade dans le lieu que je trouverai plus tard.
D'accord.
Et en fait en se rencontrant, je crois qu'on s'est plu. Au bout d'un moment c'est ça. Je leur ai parlé de ma trajectoire passée. Ils m'ont parlé de leur boîte et je me suis dit en fait je crois que c'est la boîte où j'aurais voulu bosser. L'ambiance, la façon d'en parler, le
coup de cœur,
le projet, ouais, le coup de cœur. Et puis j'ai beaucoup gambergé. À l'issue de ça, ils m'ont dit, mais alors voilà, nous on envisage très sérieusement on a envie d'accélérer très fort sur le sujet. Bah si t'as des idées, une idée de ce que pourrait être un profil qui bosserait chez nous, une idée de mission. Et puis il y a quelques semaines qui sont passées, puis je me suis dit, ils étaient vraiment super sympas quand même. Je vais leur faire un retour. Et puis je leur ai fait un vrai petit retour. Ça a commencé par un mail, puis ça a commencé par prendre de l'épaisseur. Puis je leur ai fait une vraie petite reco finalement. Et puis Greg, un des associés, m'a dit, mais en fait, dans l'absolu, ça t'intéresse? Et puis j'ai dit oui. Et puis ça s'est fait.
Incroyable. Ouais. Il y avait pas de poste à l'origine et la rencontre a fait le poste, quoi.
Ça commençait à faire le chemin dans leur esprit, mais c'est un peu ça. Ouais, je pense que ça a en tout cas peut-être accéléré les choses ou confirmé les choses, je sais pas. Ouais.
Alors avant qu'on développe un peu ce que tu fais chez Arcos aujourd'hui, tu m'as parlé de formation à la permaculture. Raconte-nous comment se fait ce cheminement. Comment déjà tu te formes et pourquoi tu veux te former à la permaculture?
Ah non, mais ça c'est génial. C'est un cadeau de ma compagne.
Ah d'accord.
Qui m'a dit cadeau d'anniversaire, et je vois le truc et je me dis mais c'est génial. Et donc on se retrouve pendant 2 semaines en formation en permaculture, et après j'ai fait d'autres formations, un MOOC, okay. Une autre formation par un autre biais, mais ça c'était les 2 semaines sur le terrain.
Tu l'as fait où?
Très très intense, dans la ferme de Sourou, du côté du Périgord.
Ok. T'es woofer quoi en fait, non? C'est ça?
Non, c'est un vrai truc qui est payant. Okay. Et où on passe alors on apprend toute la journée et où on a une formation qui est académique hein, le matin, et l'après-midi on est sur le terrain. Donc c'est 14 jours non-stop, week-end compris, de formation avec des projets à construire dans l'intervalle, dont un projet final à rendre, un projet de design. On est de 9h à 19h, c'est du non-stop, et c'était extrêmement excitant de retourner un peu sur les bancs de l'école, et ça fait très longtemps que j'avais pas senti ce sentiment de concentration extrême et cette soif d'apprendre.
Mais donc elle t'offre ça parce qu'elle sait que t'es intéressé par les enjeux de l'agriculture. Toi, c'est quelque chose qui t'anime à l'époque?
Oui, je pense. Oui, l'agriculture, c'est quelque chose qui m'intéresse, l'alimentation. La question de l'alimentation, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Dans le cadre de ces enjeux écologiques ou plus largement?
Dans le cadre de ces enjeux écologiques, je pense. J'ai conscience que c'est un... Moi, j'adore manger, ma sœur est restauratrice.
D'accord.
J'adore manger. J'adore manger partout, tout le temps. Donc si, il y a quelque chose de très, là encore, viscéral par rapport à ça.
Ok. Et donc, tu te formes pendant 14 jours. Qu'est-ce que tu fais de cette formation derrière?
Au début, je me suis dit, je vais clairement acheter un terrain. Puis je vais commencer.
Je vais devenir agriculteur.
Et puis, en fait, on rentre sur Paris. Et puis, j'ai quand même mon sujet qui m'anime. J'ai fait un bilan de compétences quand même aussi pendant ce temps-là.
Oui, donc tu as vraiment tout fait. T'as
c'est
été
une période
très
de recherche.
Oui, voilà, mais quand même très actif.
Un peu tout azimut, où on bouge, on voit plein de choses, on essaye plein de choses.
Mais c'est intéressant parce que tu peux avoir aussi des périodes de recherche où t'es complètement tétanisé par l'enjeu écologique et tu n'arrives pas à transformer cette énergie en quelque chose de positif.
Oui, mais j'ai d'abord dépensé de l'énergie physique, je pense, aussi sur les chantiers. Ça a l'air de rien comme ça, c'est bête quand je dis ça, mais d'aller bricoler, peindre, percer, visser.
Ça t'a fait du bien.
Ouais, ça m'a fait du bien. En fait, on pense plus, c'est un autre type de boulot. Au début, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, je veux bosser avec mon corps toute ma vie. Je vais peut-être charpentier. On pense à plein de trucs. Et ça empêche de déprimer parce qu'en fait, on s'offre plein de sorties de tunnels possibles. Voilà. Remet ça redonne vachement d'espoir de se dire, en fait, je vais peut-être faire ça. Peut-être tout est possible.
Ouais,
voilà.
Ouais. Dont le métier d'agriculteur.
Ouais. Ouais, je l'ai vraiment envisagé, ouais. Je l'ai vraiment envisagé.
Et dans ce lieu donc que tu imaginais, j'imagine que s'il y a un aspect santé, il y avait un aspect alimentation fort.
Oui. Oui, voilà. Mais c'était très orienté médecine quand même. Hein, et médecine,
d'accord.
Et médecine
alternative
et pas que. Voilà, l'idée, c'était une approche assez holistique de la prévention, mais aussi d'essayer de se dire que je voulais rassembler le meilleur des deux mondes.
C'est toujours un projet aujourd'hui?
Non, mais j'ai toujours été très intéressé par les sujets de santé.
D'accord.
Voilà.
Donc finalement, ce projet est mis de côté pour rentrer chez Arcos.
Oui.
Combien de temps ça dure, ce temps de latence?
2 ans et demi.
Ok.
Où j'ai l'impression d'avoir jamais arrêté. Je me suis levé tôt tous les matins. Où j'ai jamais angoissé. Où j'ai jamais demandé le chômage non plus. Donc.
T'arrivais à.
Ouais. Je me suis dit qu'en fait c'était un choix ce que je faisais. Bon, je sais pas si c'est un sujet qui intéresse grand monde, mais je me suis dit, c'est moi qui décide de remettre ma démission dans une entreprise où je suis choyé, où on me propose des portes de sortie quand on sent que je veux partir. Et voilà, donc je vais faire avec ce que j'ai. Et puis en fait, et puis ça a été aussi une période de entre guillemets décroissance chez moi. Je me suis mis à très peu consommer, enfin à réviser un peu mon standing de vie sur plein de choses et à trouver une vraie forme d'épanouissement en vivant avec en fait très peu.
Et t'étais déjà en couple. Alors ça m'interroge cet aspect-là parce que de fait quand on traverse une période comme ça, c'est un peu qui tout double avec la personne avec qui on vit. Je trouve, c'est-à-dire que est-ce que la personne est aussi dans une période de décroissance? Est-ce qu'elle est angoissée par l'idée que tu travailles plus? Est-ce que
elle a fait avec ses angoisses? Tout s'est bien passé. Non, mais c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup.
Oui.
Et puis qui on est branché sur les mêmes choses.
Oui, là-dessus. J'imagine. Donc, voilà. J'imagine. Si vous avez fait la formation ensemble de permaculture. Ok, donc tu arrives chez Arkose et là c'est toi en fait qui définis ton poste. Quasiment.
Oui, un peu. Bah d'abord on m'a donné une fiche de poste que j'avais largement écrite, donc j'étais pas surpris par ce qui allait se passer. Ensuite la fiche de poste n'était qu'assez indicative parce que je savais qu'il y avait tout à découvrir, donc il y avait rien de trop enfermant qui était écrit. Ensuite c'est une boîte qui bouge beaucoup, qui crée beaucoup de choses, il y a une ébullition et un fourmillement qui fait qu'il faut pas trop cadrer tout de suite. Le groupe effectivement faisait des choses de façon assez spontanée quelque part, et l'idée c'était d'aller mettre de l'ordre et d'a prioriser et passer un cap et prendre de la vitesse.
Toi ça répond tout de suite à tes c'est peut-être pas le bon mot, tes errements, mais en tout cas à tes réflexions que tu as eues pendant 2 ans et demi.
Oui. Ce qui me séduit tout de suite, c'est l'ambition affichée par l'associé que je rencontre. Et il y a quelque chose d'assez radical dans son discours. Et ensuite, pendant l'entretien, on n'a pas fait l'économie du processus d'entretien, évidemment. Moi, je leur dis que je vais les embêter, et ils me disent qu'ils vont me payer pour les embêter, et qu'on sera pas toujours d'accord, et qu'ils me disent que c'est ok qu'on soit pas d'accord, et que on prendra des risques. Et c'était ok aussi là-dessus. Donc il y a un deal à la base d'ambition, qui est quelque chose qui me séduit beaucoup. Et j'aime bien cette idée dans une boîte qui finalement a le vent dans le dos, l'escalade explose, ils pourraient choisir de rien faire et puis faire tout à l'économie et maximiser la marge tout le temps, et c'est pas du tout ce qu'ils choisissent de faire.
C'est une boîte rentable au moment où tu rentres chez Arkose?
C'est une boîte en développement. D'accord. Donc c'est voilà. C'est une boîte qui est capable de rentabiliser chaque salle entre 3 et 5 ans en fonction des investissements. Donc d'accord. C'est une boîte qui existe depuis décembre dernier, depuis 7 ans.
Okay.
Voilà, donc il y a des salles qui sont rentables quelque part, d'autres non, si on réfléchit comme ça, mais si on réfléchit globalement, c'est une boîte en développement.
Mais toi, quand tu y arrives, du coup, tu sais combien de temps que tu es chez Arkose aujourd'hui?
Ça fait depuis début 2019.
Ok. Donc quand tu y arrives, ça fait très peu de vie en fait. Enfin, ça a une vie depuis 4 ans, 5 ans.
Fin 2013, 2019, ouais, c'est ça.
Ok.
Ça fera 6 ans fin 2019, donc c'est ça. Et donc la définition du poste.
Ouais, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est-à-dire que donc tu as défini globalement ton poste toi-même et en accord avec les associés. Tu arrives à faire un audit de ce qui est fait et
voilà,
ce qu'il faut faire.
Ce que je voulais préciser peut-être, c'est que sur le poste lui-même, je rappelle une chose, c'est que Arkose & Co, c'est le groupe qui est constitué de l'activité des marques Arkose, Murmure et M-Rock pour les salles d'escalade.
D'accord.
Les restaurants La Cantine pour la restauration.
Ça existait déjà au moment où tu arrives?
Oui.
Ok.
La restauration.
Ouais.
Les salles ont toujours été pensées comme ça, comme des lieux de vie. Dès la première historique. D'accord. À Montreuil, ça a été pensé comme un lieu de vie qui veut créer une expérience où on vient, on chill, c'est le mot utilisé, on passe du bon temps, on vient grimper, et puis on peut manger, on peut boire une bière, etc. Et puis on a notre marque Oscar de bière qui est brassée en local sous notre salle de Nation, qui va être, on inaugure aujourd'hui une salle à Bruxelles, on va brasser de nouveau. À Bruxelles, parce que comme on ne distribue qu'en local, bah, il faut qu'on multiplie les petites brasseries si on veut continuer d'avoir une logique locale d'appro et distribution. Et puis on a la marque Oscar étant un anagramme d'Arkose. Et puis on a la marque Snap, qui a été racheté en 2017 par Arcos, qui était une marque qui a 20 ans, française, underground, décalée, qui était connue pour faire des choses décalées et puis pour produire du matériel d'excellente qualité, notamment les crash pads, qui sont les tapis qu'on utilise et qu'on emmène sur le dos comme des tortues quand on va grimper à l'extérieur, à Fontainebleau, etc.
Ok.
Et on a donc des espaces, des shops ou des corners dans la plupart de nos salles. Voilà. Et puis après, on peut avoir des activités dans les salles comme de bibliothèques participatives, ce genre de choses qui vont contribuer à nourrir l'esprit de lieu de vie des salles.
Okay.
Donc le poste, il est transverse, pour revenir au poste. Et donc, ce qui m'a séduit pour répondre à la question, c'était aussi le fait que, en fait, il y a des enjeux de construction. Les salles, on trouve des salles alors qu'on loue, hein, qu'on n'achète pas, mais qu'on restaure. Donc des enjeux du point de vue du bâtiment qui sont des enjeux très importants sur le, par rapport aux questions de développement durable. On a des enjeux d'alimentation. On a des enjeux de textile. Donc en fait, on a des enjeux, si on regarde quelque part, rien que ces trois enjeux-là, c'est trois enjeux absolument majeurs du point de vue du développement durable. Donc en fait, je touche à plein de choses, ça c'est quelque chose de très excitant. Si je superpose ça avec l'ambition d'Arcos, eh ben, j'ai la promesse d'un job passionnant.
T'as pu faire tout ce que tu voulais faire depuis 2019?
Il y a encore plein de choses à faire.
J'imagine.
Il y a encore plein de choses à faire. Les choses prennent du temps, parfois des ressources. Mm. De l'investissement, bon voilà, donc tout n'est pas encore fait, sinon je m'ennuierais, donc...
Mais tu peux peut-être nous parler de ce qui a été fait depuis que tu es arrivé.
Bah, on va peut-être parler au bout d'un moment des cotables.
On va en parler, on va en parler sur la partie alimentation. Mais hors alimentation, il y a eu des changements de fond justement sur la construction, sur l'ameublement.
Oui, alors l'ameublement aujourd'hui. Alors nous, on a un pôle travaux qui travaille là-dessus. Mon job là-dessus, c'est pas de faire les trucs développement durable dans mon coin à côté d'eux. Le truc dont je suis plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir négocié et déclenché la formation de notre pôle travaux, donc 7 personnes, c'était en janvier de cette année, 44 heures de formation par une série d'experts très pointus sur l'éco-réhabilitation.
Génial.
Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire former des pros par des pros pour qu'ils soient encore plus pros. On peut pas être pro de tout. Hein. Moi, je peux pas être expert de l'éco-réhabilitation, qui est un vrai métier, expert de l'alimentation, qui est durable, qui est un vrai métier, etc. Bon, on finit par développer une certaine expertise, mais chacun est bien à sa place. Et si on veut être vraiment efficace, il faut que eux ils aient les armes pour prendre des décisions en temps, en flux rapide, en permanence, avec des décisions pointues. C'est des profils, c'est des architectes, c'est voilà.
Et sur la partie alimentation, tu nous dis que tu es arrivé en 2019 au groupe Arcos. Il se trouve que vous avez été un de nos premiers clients et qu'on s'est lancé en 2019. Donc ça veut dire que ça a été un de tes premiers chantiers, la partie restauration.
Et un gros. Pour éclairer un peu l'ampleur de l'enjeu, on a fait notre bilan carbone 2000. J'ai fait pendant le confinement, donc 2020. On a eu les résultats fin d'année dernière. Notre premier poste, 40% de nos émissions, c'est les déplacements des clients. Donc il y a un enjeu très important sur l'emplacement des salles. Une fois qu'on a déterminé ça, on a des choses qui sont assez figées. Après, on va largement se reposer sur l'évolution du parc automobile. Notre deuxième poste...
Mais attends, tes salles sont quand même très souvent urbaines. Donc
elles sont très souvent urbaines. Et c'est ce qui fait que certainement comparé à peut-être des concurrents, on s'en sort mieux. Ça, je peux pas le vérifier aujourd'hui parce qu'ils ont pas réalisé ou en tout cas diffusé de résultats de bilan carbone.
Ça veut dire ton bilan carbone, il prend en compte ton bilan carbone, il prend en compte aussi les émissions de carbone indirectes.
Ah, on a fait ce qu'on appelle du scope 3, donc on a tout pris. Ça veut dire quelles sont les émissions qui existent parce que Arcos & Co existe à un moment donné. Direct, indirect. Effectivement, les déplacements des clients.
C'est l'impact majeur.
Induite. Oui. Bah, c'est
fou.
C'est l'impact majeur, alors qu'on a 70% de nos kilomètres qui sont faits en transport en commun.
Parce que tu as fait ce gros travail sur l'alimentation. Parce que l'alimentation, de manière générale, a un impact bien souvent plus fort que le transport.
Je crois pas, parce qu'on a fait énormément de progrès. Alors, justement, c'était le deuxième point, c'est que l'alimentation, c'est 18% de nos émissions, c'est le deuxième poste directement.
D'accord.
40%, 18%, et ensuite, ça tombe tout de suite à 10%, puis ensuite, c'est une courbe qui s'écrase avec une multitude de petits postes. Donc, l'alimentation est un enjeu majeur. Ces pourcentages sont rapportés à des valeurs absolue. Alors on a quand même beaucoup de clients qui viennent grimper tout le temps. On a 23 millions de kilomètres qui ont été parcourus par nos clients en 2019.
C'est beau.
Donc c'est beaucoup. Donc c'est là qu'on commence à se dire, en fait, même ce qu'on imagine au début être une petite boîte, on se voit comme une petite boîte, mais en fait on se dit, mais en fait on commence à avoir un impact réel sur les flux physiques. Alors c'est peut-être une goutte d'eau à l'échelle de la France, mais c'est plus des chiffres qui représentent rien.
Il y a combien de salles aujourd'hui?
20.
20 salles, combien de salariés?
350.
Ouais, donc c'est pas du tout une petite boîte.
C'est plus une petite boîte. Alors, on fait notre bilan carbone en 2019, c'est un petit peu moins, pas beaucoup moins, un petit peu moins, mais on sert 100, 127 000 repas à l'époque. Donc ça commence à être beaucoup. J'ai dit une bêtise, 270 000 repas, pardon. Okay. 270 000 repas. Donc c'est plus. Donc on se dit, mais ça commence à être beaucoup. Donc quand on fait quelque chose, quand on a une action, elle commence à avoir de l'impact. Et donc on arrive à la question de l'alimentation.
De l'alimentation, ça a été ton premier,
donc
un de tes premiers chantiers.
Donc ça a été un gros chantier.
Alors même que tu n'avais pas fait ce bilan carbone, puisque ce bilan carbone arrive en 2020, alors
exactement,
que nous, tu viens nous voir en 2019.
Absolument. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vois qu'il y a des choses qui peuvent être changées rapidement sur ce sujet-là. On a la capacité de travailler sur notre sourcing. Alors, depuis début 2019, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y avait des choses qui étaient faites à l'époque. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis début 2019. On a, et là, il y a des questions qui sont intéressantes qui arrivent, dont la question de la viande, par exemple. Ça veut dire que je pense que lors de notre prochain bilan carbone, on va attendre d'avoir une année complète, donc certainement 2022. Donc de bilan carbone 2023, ce qui est loin, moi je trépigne, ça fait loin, mais je pense qu'on aura un gros effet sur notre bilan carbone, mais ça on va voir. On a mis en place le compostage de tous nos biodéchets sur tous nos restaurants. J'ai changé le sourcing de tous nos produits d'entretien. Passer en 100% végétal et biodégradable. Le plastique était déjà banni à ce moment-là de nos salles. Vous pouvez pas trouver une bouteille plastique qui est vendue dans nos salles.
Même en cuisine. Il y a pas de film plastique.
On les bannit. Alors on essaie. Il y a encore des salles qui utilisent. Alors pas de sous vide, mais on est passé à peu près partout. Je pense que peut-être qu'on trouvera encore quelques irrégularités, mais on est passé au bac.
Ça marche pour la la conservation, pour la cuisson. Vous cuisez pas sous vide et puis c'est tout, quoi.
Donc c'est pas ça. Sous vide et puis okay. C'est tout. Et puis ce qui est beaucoup plus important, je crois, du point de vue de l'impact, c'est qu'on a complètement restructuré nos cartes, et donc ça va définir complètement nos achats. Quand je suis arrivé, on avait encore une carte, alors qui était pas par rapport à une carte de brasserie qui était petite, mais on pouvait encore trouver 4, 5, 6 plats, dont 3 burgers ou 4 burgers au bœuf. On pouvait encore trouver 5, 6 entrées, 5, 6 desserts, et on avait une carte qui changeait 4 fois par an. Donc était déjà on avait déjà une question de saisonnalité. On est passé à 6 cartes par an, ce qui permet d'être au plus proche des saisons, parce que les saisons respectent pas toujours.
Et de plus en plus.
Voilà, ou de moins en moins, ouais. et on est passé à une carte encore réduite avec 2 burgers, dont seulement un à la viande, l'autre végétarien, des grandes assiettes, une ou deux qui sont végétariennes également. En fait, on a quasiment aujourd'hui, si on regarde, on l'aura sur le prochain audit écotable, hein, on a du 70% ou 80% de choix qui sont végétariens sur la carte.
Et c'est toi qui as fixé les lignes directrices, parce que donc pour la petite histoire, tu nous contactes donc en 2019, on labellise Arcos Nation, puis après Arcos Montreuil, et là maintenant Massy.
On a 11 restaurants labellisés, Nice, sur 12 audités. Voilà. À ce moment-là, et l'idée effectivement c'est d'avoir 100% de restos qui sont labellisés, et d'avoir si possible 100% de 3 macarons écotables dès le prochain audit.
C'est toi qui es obligé de fixer les lignes directrices à tes chefs.
Alors c'est vrai, alors on en discute beaucoup avec la chef exécutive et l'associé qui est en charge de la restauration. Effectivement, j'apporte pas mal d'exigences là-dessus, mais en retour, eux acceptent de se former et progressent beaucoup sur ces questions. Ils le portent de façon systématique. Ça veut dire que si je suis pas là à une réunion, ils vont porter le message de manière systématique. Alors évidemment, ils me posent régulièrement des questions sur des choix qui peuvent être un peu techniques. Et puis si moi je vois une irrégularité, je la fais remonter. Mais c'est ce que je disais, c'est pareil. Je parlais de notre pôle travaux, c'est pareil pour le pôle restauration. Il faut que ce soit porté par les opérationnels, et c'est comme ça que ça marche bien. Et donc en restauration, ça marche très bien.
Parce que tu as eu des réticences parce que votre
des résistances.
Votre modèle, il est intéressant parce que t'as toi qui travaille avec la chef exécutive et l'associé, et après t'as quand même 12 restaurants derrière qui doivent suivre ce cahier des charges. Comment t'arrives à faire adhérer tout le monde à ce cahier des charges?
Alors, on leur parle, on leur présente des enjeux. On a fait un truc qui a super bien marché, qui était en début janvier 2020. J'ai fait intervenir un expert alimentation et impact environnementaux et nutrition du WWF et j'ai fait moi une formation donc sur une demi-journée à tous les chefs, et on a enchaîné sur un concours Top Chef entre eux. Alors ça, ils ont une fibre compétitive énorme, les chefs, donc ça marche hyper bien. Et donc après, la commande, c'était la cuisine végane protéinée, parce qu'on reste une salle de sport. Donc on dit que il faut pas que, après avoir mangé, un, on ait faim, et deux, il faut qu'on fasse passer le message qu'on n'a pas besoin de manger du muscle pour fabriquer du muscle. Donc voilà, et c'est possible de le faire en vegan. Donc eux, ils se sont éclatés là-dessus. Et puis après, évidemment, avec des points bonus sur aucun produit exotique, tout qui vient de France, des produits pourquoi pas originaux, etc.
Donc il y a quand même un travail de team building au sein de l'établissement, et j'imagine aussi avant de recrutement.
Exactement, c'est notre première étape pour faciliter les choses. Il faut que pendant l'entretien, ils nous disent, moi c'est un sujet, c'est une question qui m'intéresse, c'est une façon de cuisiner qui m'intéresse. S'ils sont rétifs, et bon, malheureusement, ça c'était un peu, quand je suis arrivé, il y avait encore, entre guillemets, les vieux de la vieille, d'anciens chefs qui pouvaient ne pas être très sensible à ces questions, ni avoir très envie d'évoluer sur ces questions. Donc après, voilà, les gens tournent et les mentalités avec eux. Donc effectivement, le recrutement, c'est une étape majeure parce qu'on économise énormément d'énergie. Je choisis pas le terme par hasard. Et ça, c'est un truc qui marche très bien chez Arcos. On recrute des gens qui sont sensibles au sujet. Et moi, j'économise énormément d'énergie. J'ai jamais trop besoin d'expliquer. Alors, je dois expliquer parfois comment, mais je dois jamais légitimer le sujet que la question environnementale est quelque chose qui est important, quoi. C'est quelque chose qui est acquis, et ensuite j'explique éventuellement pourquoi précisément en matière de textile, pourquoi précisément en matière d'alimentation, etc.
C'est en tout cas très enthousiasmant, je trouve, ce que tu dis, c'est-à-dire que quand t'as quand même une direction qui a une visée forte et qui met en place ces choses, ça marche, quoi.
Complètement. C'est jamais totalement fini. On a besoin de faire des piqûres de rappel. On a plus de facilité à avoir des chefs qui s'engagent quand ils comprennent pourquoi ils doivent s'engager. Alors eux, c'est ce que je te disais, qu'ils sont très compétitifs. Rien que l'envie d'avoir les 3 macarons écotables, ils sont reboostés à 200% tout le temps. Et maintenant qu'on leur a mis l'objectif, ils veulent vraiment y arriver.
C'était un peu ma question suivante, c'est-à-dire, est-ce que pour toi c'était important qu'il y ait une démarche de labellisation derrière de vos restaurants?
Alors oui. D'abord, avoir un regard extérieur qui vienne nous conforter sur notre performance, qui vienne nous challenger aussi, s'accrocher à un référentiel en se disant que le référentiel évolue, en regardant ce qui est le plus pertinent du point de vue scientifique aussi, parce que bon, c'est, tout le monde apprend sur ce sujet-là.
Bien
donc
sûr.
Besoin de mettre à jour régulièrement, voilà. Donc ça procure une forme de colonne vertébrale, et puis ça permet d'avoir un temps, une rythmique. Bah, tous les ans on va faire un audit, et tous les ans il faut qu'on puisse constater les progrès et puis ne jamais constater à contrario de retour en arrière. Donc ça nous apporte vraiment, ça nous apporte beaucoup de choses là-dessus.
Et tu fais auditer, peut-être c'est quelque chose à relever, tu fais auditer même ceux qui ne peuvent pas être labellisés, justement pour savoir pour avoir toujours ce regard extérieur.
Alors en général, on le découvre parfois a posteriori qui ouais. pouvait pas être labellisé. Ça se joue pas forcément à grand chose. Il faut savoir, moi je jette pas toujours la pierre là au chef, très clairement. d'abord, tout le monde doit se sourcer localement. On les encourage au maximum. Et toutes les régions, tous les restaurants ne sont pas servis de la même manière sur les fournisseurs qui sont proches de leur restaurant. Donc, il y en a pour qui c'est assez facile. Et boum, tout à coup, bah, on prend 20-30% en approvisionnement en bio, en local. Et on atteint des scores qui permettent d'avoir de très bons résultats avec l'audit écotable. Moi, depuis mon arrivée, il y a quelque chose qui... Je fais le parallèle avec... je disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile. Enfin, les émissions... Pardon, les émissions liées au déplacement de nos clients, on se repose, on s'appuie sur l'évolution du parc. Là, c'est pareil. Le sourcing se transforme autour de nous et le fournisseur qu'on trouvait pas l'année d'avant, tout à coup, on le trouve. Et donc ça, moi, je le constate sur certains restos qui ont un peu plus de mal. Ou alors, parfois, c'est des fournisseurs qui existent du point de vue des exigences de local, circuit court ou bio, mais on a des gros problèmes d'appro, ça marche pas. Du coup, le chef qui est en panique un matin parce qu'il n'a pas été livré doit se faire livrer par le gros backup, le métro, etc. Et puis, boum, du point de vue de l'audit écotable, ça passe pas. Mmh. Et puis, lui, il se fait taper sur les doigts derrière et puis, il comprend pas parce qu'il dit, mais moi, c'est d'abord écotable ou d'abord faire manger mes clients? Donc, on doit travailler là-dessus aussi.
Bien sûr.
Donc, on a des problématiques organisationnelles aussi derrière.
Bien sûr.
Mais ça arrive de moins en moins parce que de plus en plus, on a eu le temps de sourcer. Parfois, c'est un vrai petit boulot d'investigation, hein, de trouver le bon et puis de stabiliser l'approvisionnement, qu'on soit bien livré régulièrement, avec les bons délais, qu'on ait trouvé aussi des choses qui sont acceptables du point de vue du coût. J'ai encore plein de choses à dire, mais du point de vue du coût, c'est pas forcément évident. Nous, on a la volonté d'avoir des produits de qualité, faits maison, avec des arguments en matière d'environnement, avec des petits producteurs qu'on peut citer, mais tout ça vendu pas très cher dans nos salles.
C'est quoi ton ticket moyen?
C'est 14 euros.
Ouais.
On fait pas vraiment de marge sur la restauration. C'est un choix aujourd'hui. Si on voulait faire de la marge, il faudrait soit augmenter le prix à la caisse, soit acheter moins cher. Mais aujourd'hui, on essaie de trouver d'autres leviers de rentabilité avec l'organisation, la qualité de la vente, etc. Mmh. Voilà. On y viendra peut-être, mais les points qui ont été pas faciles et qu'on fait beaucoup discuter, on parlait de la restructuration de la carte, il y a la place de la viande. Culturellement, c'est pas facile. Il se trouve que on a fait un choix après en avoir beaucoup discuté. Je suis très franc, le burger, c'était notre best-seller et ça l'est encore aujourd'hui. Le supprimer purement... Le burger à la viande, bah le classique en général. On a un très beau succès des burgers végétariens qui commencent à s'imposer régulièrement. Donc c'est aussi une preuve du pari dont je vais parler dans un instant, qui c'est une preuve qu'il a fonctionné, que c'est un pari gagnant. On s'est dit, on a plusieurs chemins. Soit on n'essaie pas de pas réduire la viande, et dans ce cas-là, on a un problème de cohérence parce qu'on sait que la viande est un des l'impact de loin principal de l'alimentation en France et dans le monde. Soit on supprime complètement la viande, et c'est un choix qui est radical, qui a une certaine classe, mais qui peut avoir un écueil. Qui est que on va perdre des clients. Alors ça, c'est un écueil qui est commercial, mais peut-être aussi un écueil du point de vue environnemental. Ça veut dire qu'on a un groupe de 6, comme on a très souvent, de 4, de 5, de 6. Il y en a un qui veut absolument manger de la viande. Ils sont tous d'accord pour aller manger un bout. Et il y en a un qui dit, mais rien à manger. Moi, je veux qu'on aille manger ailleurs parce que j'ai envie de manger de la viande. Et si on a un plat de viande, qui est un plat sourcé avec de l'agriculture extensive, et c'est ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui, qui va limiter, même si c'est pas valorisé du point de vue du bilan carbone, parce qu'il se trouve que la base de l'ADEME aujourd'hui ne valorise pas ça, bon, mais on le fait pas pour ça. Donc une viande qui a des arguments écologiques intéressants. Cette personne-là qui veut absolument manger de la viande, elle va manger de la viande. Tous les autres, ils vont avoir un plat qui est tentant du point de vue du végétarien, et peut-être qu'on va avoir sur cette table de 6 un plat de viande, 5 plats de végétariens, et voilà. Et nous, on fait le pari que on va faire découvrir des plats végétariens qui soient très bons, évidemment, ils sont toujours moins chers, qui sont aussi roboratifs et qui font vivre une expérience gustative qui est différente.
Oui, l'idée, c'est un peu de faire du plat végétarien la star de la carte.
Exactement. Et donc, on a, nous, la viande, quand il y a parfois de la viande, on la met en option. Mais en opt-in, ça veut dire que ça va être, si on fait un couscous, il va être végétarien, et ça va être plus 2 euros pour avoir la brochette de poulet qui va avec.
D'accord.
Donc déjà, des petits nudges comme ça. En général, des plats végétariens. Donc déjà, la probabilité de tomber sur la viande baisse, c'est statistique. Et puis, on fait en sorte que les plats, ils soient sexy, quoi, qu'ils donnent envie et que quand l'assiette arrive, elle fasse envie. Et on se dit que, bah, la fois d'après, alors que dans ce cas-là, si, enfin, si ce même groupe était sorti, aller manger, était parti manger ailleurs, ils auraient mangé d'abord, il n'y en aurait pas eu 5 qui auraient mangé du végétarien et un de la viande, mais 4, peut-être tous de la viande. Et puis, la viande qu'ils auraient mangée, ça aurait pas été la même viande.
Est-ce que ça marche? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois que les 5 personnes prennent du végétarien?
Oui, parce que nos consommations en matière de végétariens augmentent, enfin elles explosent quoi. Si on regarde le chiffre d'affaires, alors on va avoir besoin là d'avoir. On a nous été fermés toute l'année dernière, donc j'ai hâte d'avoir quelques mois de track record pour pouvoir observer les chiffres et pas se dire qu'on a des chiffres qui sont trompeurs parce que sur des périodes trop courtes. Mais notre consommation de végétariens explose. On a en plus du fait que notre viande soit sourcée de manière différente, ça a été difficile à trouver, mais elle est sourcée de manière très différente. C'est une forte traçabilité, c'est agriculture extensive de manière systématique. Quand j'ai fait mon bilan carbone, on avait grosso modo 30% de végétariens, 30% de viande bœuf parmi les assiettes qui étaient vendues, 30% de viande hors bœuf. Donc une forte dominante viande. Là, je ne veux pas trop m'avancer sur les chiffres, mais je crois qu'on est bien au-delà des 50% de plats purement végétariens. Donc, ça marche.
Ok. Et tu nous as parlé de communication. Ça m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'un de tes objectifs, en tout cas, c'est ce que tu as dit, c'est de convaincre les personnes qu'on peut manger végétarien, que ça soit bon, que ce soit revigorant, même après une séance de sport, etc. Qu'est-ce que vous avez développé en termes de communication sur ces aspects-là ?
Eh ben très peu de choses. Peut-être qu'on devrait essayer de mettre plus en avant les enjeux nutritionnels, ce genre de choses. On a une approche, c'est vrai, qui est très nos arguments ils sont culinaires, gastronomiques et on est là pour manger ensemble un bon plat sans trop se poser de questions. Il faut que ça glisse quoi. Il faut pas que on ait le sentiment de trop forcer. Alors, il y a des petites choses. Il y a des nudges entre guillemets. Il y avait ce que je disais sur la viande qui était en opt-in. On a nos plats végétariens qui sont symbolisés, indiqués d'une petite carotte à côté du prix. Il y a le fait que la carte soit extrêmement
réduite
avec avec très très peu de viande finalement et beaucoup d'options végétariennes.
Puis vous mettez quand même en avant le fait que c'est des plats faits maison, des produits locaux.
Complètement. Les bons
bio,
produits
si possible.
Et puis les assiettes sont belles. Donc les choses doivent se faire de façon. Je crois que c'est comme ça qu'on va changer les choses. C'est pas en interdisant. Ou en mettant la honte à ceux qui mangent de la viande. Je crois que c'est en rendant cool le fait de manger un plat végétarien et qu'il soit juste bon en fait. Et il n'y a pas de privation. C'est beaucoup plus facile. Je parlais de viscéral avant l'idée à mon sujet en début d'entretien. C'est beaucoup plus facile de mettre une bonne résolution quand on l'a déjà prise. De dire ah bah je vais devenir végétarien ou je vais manger très peu de viande très flexitarien, je sais pas comment on dit. Une fois qu'on mange déjà très peu de viande et qu'on l'a fait pour le plaisir et qu'on se dit en plus bah c'est bon pour ma santé, en fait je me régale, je me prive de rien. Voilà, je crois beaucoup à ça moi. Je crois que c'est ce qui va marcher. Sinon, on a des levées de boucliers. On va parler aux 20% ou 15% de gens qui sont déjà flexitariens ou déjà végétariens, puis on va se mettre à dos tous les autres et on va pas faire basculer la masse, si je puis dire, le ventre mou, alors que c'est eux qu'il faut aller chercher si on veut arriver à relever le défi environnemental.
C'est quoi l'avenir pour toi et pour Arcos de manière générale sur ces questions-là ?
Ces questions-là.
Environnementales.
C'est quoi la suite moi ce que j'aimerais bien et ce qui est difficile, je le dis hein, franchement, ce que j'aimerais bien et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est arriver à embarquer nos bailleurs. On est des locataires, c'est arriver à embarquer nos bailleurs pour qu'ils isolent leur bâtiment. Ça j'aimerais bien arriver à faire ça. J'ai peu de leviers aujourd'hui qui soient juridiques,
techniques. Parce que tes bâtiments sont pas très bien isolés et c'est pas un impact massif dans ton bilan carbone.
C'est pas un impact massif parce qu'aujourd'hui l'énergie, on a la chance de vivre en France et que l'énergie est assez peu carbonée, est globalement à l'électricité, très largement à l'électricité, un tout petit peu au gaz dans certaines cuisines. Aujourd'hui, toutes nos cuisines sont notamment sous l'impulsion écotable en 100% électrique. Les chefs aiment bien traditionnellement cuisiner au gaz. mais au moins symboliquement participer à la rénovation énergétique des bâtiments, qui est un enjeu absolument majeur en France. C'est la première source de consommation d'énergie en France, les bâtiments, avec 40% de l'énergie consommée. On a quand même des grands bâtiments qui ont au moins 6 mètres sous plafond, qui sont des salles d'au moins 1000 mètres carrés. Et on a besoin, même si on tolère une assez grande amplitude en matière de température, on a besoin de chauffer et parfois de climatiser un peu. La grimpe s'accommode assez bien des températures, notamment des températures basses. Mais les gens qui mangent dans nos salles et avec des restaurants qui sont ouverts sur la salle d'escalade, un peu moins. C'est moins agréable de manger quand il fait 14 degrés. Voilà.
Et j'imagine que c'est moins agréable de grimper quand il fait 45 degrés.
Exactement. Surtout pour la chaleur. Donc c'est aussi voilà, ça, on sait typiquement que on a aucun intérêt nous à vivre dans un monde où on a 33 jours de ou 35 jours de parce que c'est un peu ce qui se profile hein, en fin de siècle. De canicule par an. C'est des jours où on a moins de gens, très clairement. Les jours où il fait extrêmement chaud. Alors d'abord, les gens aiment bien être dehors, mais les gens sont souvent nulle part. Quand il fait 40 degrés, ils sont nuls. On les voit nulle part.
Et tu arrives à convaincre tes bailleurs? C'est quelque chose qui... Tu es optimiste là-dessus?
C'est un sujet pour l'instant. On a du mal à engager la conversation avec eux. On n'a pas forcément les rapports aujourd'hui qui permettent de mettre ce genre de questions sur la table. Et c'est ce que je disais, j'ai assez peu de leviers, moi, aujourd'hui, juridiques, techniques, financiers, pour les embarquer sur ces sujets. Donc les trucs que j'aimerais bien faire, les priorités dans l'avenir, c'est ça. Puis après, on a d'autres sujets, on se pose la question de société à mission, on se pose la question de certification, qui sont plutôt pour moi c'est pas ma priorité, et c'était pas la priorité dans la philosophie d'Arcos jusque là, c'est on fait les choses et on verra après pour la reconnaissance. Voilà. C'est ce qu'on fait par exemple pour Snap, notre marque de vêtements textiles. On achète depuis des années du coton bio et on n'a jamais fait encore la démarche aujourd'hui de faire la certification pour pouvoir mettre sur nos étiquettes que c'est du coton bio en bout de chaîne. Voilà, donc ça c'est des choses dont on doit encore s'occuper.
Ouais.
Mais on s'est concentré sur le faire avant de le raconter. D'ailleurs, on raconte assez peu ce qu'on fait. On a fait l'effort de faire un site développement durable Arcos & Co dédié. Qu'on doit mettre à jour et sur lequel on a encore plein de choses à raconter qu'on fait et qu'on dit pas.
Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe RSE? T'es seul ou...
Ah, je suis tout seul. Okay. Et puis j'anime, je suis au comité de direction. Donc, l'idée, c'est de faire passer le sujet auprès de tout le monde. Ça marche assez bien.
Un boulot assez titanesque pour une personne.
Alors, titanesque, j'imagine que tous les travaux ont des perspectives. Enfin, n'importe quel travail est plein à 100% quelque part et ne voit pas le bout de ce qu'il a à faire, sinon c'est un problème. En tout cas, dans les boulots à responsabilité, on voit toujours des nouvelles choses à faire. C'est un boulot qui est titanesque. Ce serait alors titanesque dans le sens un peu irréalisable, un peu écurie d'Ogias, enfin en tout cas un truc un peu insurmontable, si j'étais seul dans mon coin à faire mes trucs. J'ai pas du tout le sentiment que ce soit le cas aujourd'hui. Quand j'ai besoin d'un budget, jusque-là, je l'ai toujours eu. Quand j'ai besoin d'engager une dépense, ça suit. Alors j'argumente, hein. J'ai beaucoup d'échos, beaucoup de réponses de la part de mes collègues, toujours. Donc, et puis il me pose des questions quand il y a des décisions qui doivent être prises. Donc il y a des bonnes décisions qui sont prises au bon moment. J'économise. C'est beaucoup plus simple de prendre une décision en amont qui est la bonne que d'aller corriger derrière quand on a pris la mauvaise.
C'est sûr.
Voilà. Donc ça marche très bien. Moi, on est une boîte entre guillemets jeune avec des gens qui sont de ma génération, voire plutôt un peu plus jeunes. C'est des gens qui sont déjà sensibles au sujet. Après, il leur manque parfois l'expertise qui font qu'on peut avoir la fausse bonne idée, mais là, c'est mon job. Mais voilà, comme mon job, c'est aller les aider à prendre les bonnes décisions et faire et aller poser les grandes directions et impulser la politique. Titanesque, je crois pas. Il y a du boulot, heureusement, mais titanesque, insurmontable, non.
D'accord.
Et parce qu'il y a les associés, pardon, ça c'est hyper important de le dire, il y a un soutien des associés.
Voilà. Qui sont acquis à ta cause.
Ah oui, complètement. Voilà, et qui se nourrissent et qui apprennent eux-mêmes très vite. je les nourris aussi, je leur envoie des éléments en permanence. Donc il faut développer la culture G sur le sujet. Hein. Je crois que même pour quelqu'un d'expert, c'est tellement
Toujours développer sa culture G sur le sujet.
Oui, mais c'est ça c'est titanesque pour le coup. Enfin, c'est un sujet en ébullition, en apprentissage permanent, et c'est une somme d'expertise. Donc voilà.
Oui, et puis comme tu le disais, il y a toujours des contre-études quand tu vois Agribalis, donc qui est la base de données de l'ADEME sur l'impact carbone de l'alimentation. Bah en effet, elle est encore aujourd'hui très imparfaite parce qu'elle prend pas en compte les impacts positifs éventuels liés à un élevage extensif. Je voudrais te poser les dernières questions que je pose traditionnellement à mes invités sur ce format. Ma première question, c'est: est-ce que tu te considères comme un militant de l'assiette? Est-ce que le terme militant te satisfait?
Oui. Je lisais il y a pas longtemps, je crois que c'était Dante qui écrivait que dans les moments de que les places les plus chaudes dans l'enfer étaient réservées dans les moments de grande crise morale à ceux qui restaient neutres. Je crois que je passe suffisamment de mon temps je fais des choix de consommation et de mon vote en faveur de ces questions-là. Donc oui, tout ça c'est clairement militant. Oui.
Ma dernière question, ce sera une question plus politique. Si tu avais une mesure aujourd'hui à conseiller au gouvernement sur les questions environnementales d'alimentation durable, ce serait quoi?
D'alimentation durable.
La première chose à faire.
Je crois que ce serait vraiment de transformer le... Alors qui suis-je, hein, pour donner une leçon au gouvernement, mais ce que j'aimerais bien voir fait, c'est de transformer le modèle agricole français et l'aider à le basculer vers des modèles qui soient plus agroécologiques. Donc il y a tout un registre de techniques. C'est pas forcément de la permaculture, hein, qui est plus une philosophie, mais de techniques agricoles et d'encourager et de financer la bascule des agriculteurs qui, à mon avis, sont dans des situations parfois très difficiles, assez étranglés par un système d'endettement dans leur modèle d'agriculture intensive en monoculture. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait vraiment arriver à changer. L'agroécologie, elle permet de stocker du carbone, elle permet d'améliorer le cycle de l'eau, elle permet d'agir positivement sur la biodiversité en enrichissant le sol et en préservant les espèces.
Oui, compris.
Et tout complètement. Et je crois que c'est vraiment une des voies de salut de l'humanité, c'est d'être capable de réformer son agriculture pour aller vers des techniques agroécologiques. En repensant également la distribution, hein, ça va avec. Alors c'est compliqué avec les grandes cultures, les céréales qui sont la vraie base de l'alimentation. Hein. C'est pas le maraîchage, c'est pas les fruits ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous apporte la calorie. C'est largement les céréales. Mais ce serait de et puis là, donc pour le gouvernement, la France et puis aussi pour l'Europe, la PAC, qu'il y ait des vrais outils de financement d'accompagnement à la transformation des modèles agricoles.
On est en plein renouveau de la PAC, oui. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ce sujet. Ma dernière question, vous arrivez à Arcos à sélectionner des agriculteurs qui sont dans la démarche agroécologique ?
Oui, de plus en plus. De plus en plus, en trouvant des petits producteurs qui arrivent à nous proposer des choses hyper intéressantes. Donc c'est toujours des cas particuliers, hein, c'est local par définition, mais c'est des gens qui, même s'il n'existe pas forcément aujourd'hui de label là-dessus, qui soit très convaincant sur des techniques d'agroécologie, d'agroforesterie ou de techniques issues de la permaculture, qui vont aller nous raconter des trucs hyper intéressants sur la façon dont ils font pousser leurs fruits, leurs légumes, etc., ou qui la façon dont ils élèvent leurs bêtes. Donc on y arrive de plus en plus, et ça c'est un des signaux. Est-ce que c'est un signal faible? Je sais pas, mais en tout cas une des choses encourageantes, c'est que j'ai beaucoup moins de mal. On a beaucoup moins de mal à sourcer aujourd'hui auprès de producteurs qu'il y a 2-3 ans, quoi. Donc ça évolue vite, et ça c'est prometteur.
Merci beaucoup, Eli.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille !